When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
NoWatch.fm.
Incredible web shows.
Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets. Nous sommes en janvier 2011 et c'est l'épisode numéro 51. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast où on parle technologie, internet et gadgets. Je suis Patrick Béja et je vous présente cette émission aujourd'hui un petit peu spéciale, voire très spéciale, parce que je suis tout seul. Alors avant que les mauvaises langues ne commencent à lancer des accusations du genre « tout le monde a abandonné Patrick, personne voulait faire l'émission avec lui », etc. C'est pas exactement le cas. En fait, je me suis dit que pour une émission bilan de l'année 2010, que je vais faire aujourd'hui, je voulais tester quelque chose d'un petit peu différent. Et ce quelque chose, c'est de faire une émission un petit peu plus intimiste avec juste vous et moi en tête à tête. Et quand je dis vous et moi, c'est bien sûr vous qui nous écoutez, mais aussi vous qui êtes dans la chatroom, parce qu'il y a une petite chatroom qui est là, comme d'habitude, et on va pouvoir être tous ensemble, sans autres animateurs qui vont venir nous déranger. J'espère que vous allez être indulgents, parce que c'est la première fois que je fais ça. Il y a plein de gens qui font plein de podcasts de grande qualité, qui le font depuis longtemps et qui y arrivent très bien, ces podcasts en solo. Pour moi, ça sera la première fois, donc j'espère que ça va pas trop mal se passer et surtout que vous serez indulgents avec moi. Comme je le disais, l'émission est un bilan de 2010. Je vais quand même, si j'ai bien préparé les choses, je vais intégrer des choses qui sont passées dans le dernier mois, qui seront un petit peu plus des news du mois de décembre. Mais je ne vais pas forcément faire de news à proprement parler. Je vais me lancer directement dans la review de 2010. Et pour ça, j'ai passé en revue en fait toutes les émissions qu'on avait fait dans le courant de l'année 2010. Et je vais aller mois par mois pour essayer de faire une sorte de voyage dans le temps, de souvenirs, et de voir ce qui s'était passé à chaque mois de l'année 2010 et de voir en même temps où on en est et de prendre un petit peu de distance par rapport à tout ça. Donc j'espère que vous apprécierez l'opération, j'espère aussi qu'on refera ce type d'émission les années suivantes. Et bien sûr, pour ce qui est de la chatroom, si vous voulez participer, j'essaierai de lire et de vous répondre dans le courant de l'émission, histoire de ne pas non plus rester totalement en monologue. Je vois d'ailleurs dans la chatroom des gens qui se demandent si j'ai réécouté toutes les émissions une à une. Non, je suis juste allé regarder les notes, ça a quand même été beaucoup plus vite. Je ne me suis pas retapé les 25 émissions de l'année 2010 à peu près. Et donc ça a quand même été un petit peu plus simple que ça. Bah écoutez, j'espère, avant de commencer, je vais juste dire que j'espère que vous avez eu un très bon Noël et un très bon nouvel an, que vous avez été prudent et que vous êtes bien amusé, que vous n'avez pas trop mangé. Moi, pour ma part, parce que bon, à chaque fois que je commence l'émission, je demande aux animateurs s'ils vont bien. Et comme aujourd'hui, il n'y a personne, je le fais avec moi-même. Donc voilà, moi je vais très bien aussi, j'ai passé de très bonnes vacances, c'était très agréable et je suis d'attaque pour l'année 2011 pour nous lancer dans une nouvelle année de podcast qui, je l'espère, vous plaira au moins autant que les précédentes et peut-être même plus. Donc, l'année 2010 qui vient de s'écouler, comme je le disais, j'ai repassé en revue tous les épisodes précédents de l'année et pour le mois de janvier, On avait un programme qui était assez sympa, puisque, vous le savez, le mois de janvier, c'est le mois du CES de Las Vegas, qui est le plus grand salon de produits d'électronique consommateur, de grande consommation, et qu'il y a généralement des tendances qui se dessinent au cours de ce salon. Et il y avait eu, en fait, à la fois les tendances du salon en lui-même et les premières rumeurs. Alors, les premières rumeurs, vous savez sans doute de quoi je veux parler, mais je ne vais pas le lancer tout de suite parce que vous allez en entendre parler suffisamment pendant toute l'émission pour en avoir un petit peu marre. Donc, je vais commencer par le CES en lui-même, où on avait énormément de présentations de tablettes et de 3D. C'est-à-dire que les tablettes, en fait, on a souvent l'impression que la folie des tablettes a commencé avec la sortie de l'iPad, mais en fait, ça avait commencé déjà avec le CES et on commençait à voir arriver des produits, on va dire, pas vraiment finis, qui ont dû être véritablement revus une fois que l'iPad est sorti, mais il n'empêche qu'il y avait déjà beaucoup de gens qui travaillaient dessus, en fait. Donc, tablette d'un côté et 3D de l'autre. Et je crois me souvenir que dans cette première émission ou deuxième émission de janvier, on avait dit cette fois-ci, la 3D, c'est pour de vrai. Vous allez en bouffer et on va tous en bouffer. Et je pense que ça s'est confirmé. La 3D qui avait été présentée absolument partout au CES, dans toutes les télés du salon, eh ben, ça s'est concrétisé. La 3D, on en a eu vraiment à toutes les sauces pendant l'année 2010. À côté de ça, il y avait eu les rumeurs donc sur ce qu'on appelait à l'époque l'iSlate, qui est devenu bien sûr l'iPad comme on le sait. Et une autre chose, c'était la sortie du Nexus One, donc le téléphone de Google sous Android. Et c'est marrant parce que, enfin, le Nexus, si je ne m'abuse, était sorti un tout petit peu avant. Et c'est marrant parce que moi, j'avais l'impression que le Nexus One était sorti il y a très très longtemps. Et si je ne me trompe pas dans la relecture de mes notes, ce qui est toujours possible, en fait, c'était fin 2009, début 2010. Donc, ça fait pas si longtemps que ça, quoi. Giant John Pepper me dit on entend parler de la 3D mais à part dans les cinémas et à la FNAC on la voit pas. Bah oui, forcément John Pepper Giant, oui, on la voit au cinéma et à la FNAC parce que c'est dans les télés. Je veux dire, on va pas te mettre de la 3D j'allais dire dans tes céréales, mais je suis sûr que même dans les céréales il y a des machins genre voyez cette scène en 3D avec vos lunettes rouges et bleues, comme le fait remarquer Crony Bard. Il y a aussi la 3DS. Donc sur les consoles de jeux, ça arrive aussi. Sur les ordinateurs, c'est également le cas. Et enfin, je pense que tous les endroits où on peut avoir de la 3D, et ben on en a. Maintenant, là où on peut pas, c'est sûr qu'il n'y a pas des livres en 3D, peut-être si. Des horloges en 3D, ça serait pas mal. Peut-être un marché à explorer. Écoute, John, il faut voir, il faut essayer d'explorer ce marché si tu veux faire des sous. On passe à février avec la conférence d'Apple qui a présenté l'iPad. Et je me souviens de la présentation de cette conférence qu'on avait fait et à quel point on était tiédasse au moment de la présentation. Et là, j'avoue qu'on est un petit peu tous coupables. Je me souviens vraiment que pendant toute la présentation, on était en train de se dire oui, bon, ça, enfin, c'est quand même un gros iPhone. On était déçus, on espérait en fait un matériel sous un OS vraiment complet comme macOS. Et finalement, voir cette sorte de gros iPhone avec des icônes un petit peu trop petites pour l'écran, on avait tous été vraiment froids. Surtout qu'on attendait, en fait, un truc qui était peut-être un petit peu organisé par Apple aussi, qui avait laissé planer le doute, qui était le prix. On se disait que ça allait être à 1 000 $ parce qu'ils ne pouvaient pas faire un truc en dessous de 1 000 $. Et finalement, quand ils ont annoncé à 500 $ le prix de départ, on avait commencé à se dire bon, pour 500 $, peut-être, pourquoi pas. Et il avait fallu quelques jours pour vraiment digérer l'annonce et digérer les implications de l'annonce de cet iPad. Et j'avais moi spécifiquement, hein, je parle de moi puisque c'est la personne que je connais le mieux, écrit un article sur mon blog, sur patrickbeja.com, où je détaillais le fait que j'avais l'impression que cet iPad allait plus loin que simplement la notion de tablette, mais introduisait la notion d'informatique facile, informatique pour tous. Et peut-être pas en allant jusque-là, parce que l'iPad en lui-même n'est que le début de cette notion, il est certain que le succès de l'iPad nous a tous fait mentir, et ça on va en reparler un petit peu plus tard, mais c'était en février qu'avait été présenté cet iPad. Ça, c'est le truc un petit peu attendu. L'autre truc qui a fait beaucoup de bruit et qui s'est par contre là un petit peu évanoui juste après, c'était Google Buzz qui avait été présenté en février. Et ça, c'est intéressant à remarquer parce que en février, on a vu arriver Google Buzz avec énorme fracas. Et déjà, ça fait donc une dizaine de mois, un petit peu plus, et déjà Google Buzz, qui n'est pas mort, hein, qui n'a pas été arrêté, donne l'impression d'être un truc complètement, en anglais on dit irrelevant, qui n'a plus aucune relevance, ça y est, on va me traiter de Vandamme, qui n'est plus du tout intéressant sur le monde du tech, quoi. Personne ne se sert de Buzz, c'est un désert qui n'est peuplé que des mises à jour de Twitter. Allman78 me dit dépassé. C'est même plus que dépassé. Enfin, c'est pas qu'il est dépassé parce que la technologie pourrait fonctionner, mais la manière dont elle a été implémentée n'est plus du tout utilisée. Et la dernière chose qui s'est passée en février, qui était un truc récurrent, mais enfin une histoire qui a duré bien plus longtemps, mais dont j'aimerais rappeler cet épisode assez amusant, c'était la question de Adopi et du dépôt du nom Adopi à l'Institut national de la propriété intellectuelle, qui avait été fait bien sûr, mais pas par l'Adopi. Donc je ne sais pas vraiment comment ça s'est. Merci famille. Pertinent, relevant, c'est pertinent. Décidément, merci à la chatroom qui m'apprend à parler français. Donc, Adopi n'avait pas été déposé par l'Adopi. La marque était donc détenue par quelqu'un d'autre. Je ne sais pas ce qui s'est passé finalement, mais c'était évidemment une grosse rigolade de plus dans cette aventure de l'Adopi. En mars, il y a eu l'histoire qu'on a déjà évoquée dans la chatroom, qui était celle de Google et la Chine, ce grand combat qu'a mené Google avec la Chine, parce qu'ils voulaient arrêter de filtrer les résultats affichés dans leur moteur de recherche en Chine. Évidemment, la Chine n'était pas du tout d'accord avec cette option. Et au final, ils ont fini par quitter la Chine. Et je vais faire un test tout de suite. Si on va sur google.cn, normalement, on a simplement une image une simple image sur laquelle on peut cliquer qui vous redirige vers google.com.hk, donc Google Hong Kong, qui lui n'est pas filtré. Mais donc, Google a en quelque sorte tenu sa promesse de partir de Chine s'il ne pouvait pas présenter les résultats qu'il le voulait. L'histoire est bien plus complexe que ça. Là, je rappelle juste la chose. Il faudrait en débattre beaucoup plus longtemps pour aller au fond des choses. Mais c'était en mars. Et là aussi, ça paraît être un petit peu plus loin que simplement il y a une dizaine de mois. L'autre chose, c'est l'annonce de Google TV qui avait été faite en mars. Google TV est bien sûr disponible depuis quelques mois avec des premiers résultats vraiment, vraiment moyens, voire assez décevants, parce que même Google a demandé à ses partenaires qui voulaient présenter des télés à ce CES, qui aura lieu donc dans quelques jours, a demandé à ses partenaires de décaler leur présentation parce qu'ils veulent retravailler leur logiciel Google TV. Ce qui prouve que vraiment, ça n'a pas tenu les promesses que Google espérait et les résultats sont complètement décevants. Et je suis désolé de le dire parce qu'on va encore me traiter de fan d'Apple, ce qui n'est vraiment pas le cas. J'en discutais avec la chatroom juste avant le début de l'émission et les problèmes que j'ai avec mon Mac sont interminables. Mais le commentaire de Steve Jobs qui avait été interviewé à la conférence D8 était Google va se rendre compte qu'il y a un gros problème avec les set-top box, les boîtes qui viennent à côté de la télévision. C'est la stratégie d'aller vers le marché, le go-to-market strategy. Je pense que Google, en l'occurrence, a des problèmes plus avec les deals qu'ils veulent faire avec les gens qui possèdent les contenus, les gros réseaux de télévision américains. Et on entend des rumeurs selon lesquelles Google serait en train de préparer des sociétés de production. Ils ont acheté Next New Networks il y a peu de temps, qui fait beaucoup de production sur Internet. Mais on se dit qu'ils vont peut-être se mettre à produire leur propre contenu. Ce qui est quelque chose de très intéressant et une donnée fondamentale dans le combat entre ancien monde et nouveau monde. Et on peut imaginer, c'est quand même un petit peu extrême, mais pourquoi pas que Google se mette à produire des émissions de qualité qui deviennent tout de suite complètement... Enfin, qui ne remplaceront pas les autres émissions, des émissions comme, enfin je sais pas, au hasard, des trucs comme Lost ou 24 ou... Grey's Anatomy, oui, je regarde Grey's Anatomy et je n'en ai pas honte, ou Dr. House, etc. Sans les remplacer, ils puissent venir les concurrencer et leur faire se mordre les doigts qu'ils n'aient pas voulu négocier avec Google et qu'ils se mettent en situation de conflit. Bon, ça c'est quelque chose qui va sans doute se développer dans les quelques mois ou l'année à venir. Avril, que s'est-il passé en avril ? Évidemment, la chatroom le saura. En avril, l'événement le plus important, c'est... J'attends que la chatroom réponde. Non, personne. Voilà, Isota qui a trouvé, c'est l'iPad, bien sûr. J'allais faire un petit jeu en vous disant, c'est le Facebook Like button. Donc, on va commencer par ça, en fait. Le bouton Facebook Like, qui là encore... On a l'impression que ça fait vraiment partie de l'Internet, partie du net, et que c'est là depuis, pas depuis toujours, mais depuis vraiment longtemps. Et en l'occurrence, eh ben, il est arrivé qu'en avril de l'année dernière. Donc, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Et aujourd'hui, le bouton like, il est absolument partout. Et il a une importance assez fondamentale parce qu'il est au moins aussi important que le bouton tweeter, duquel il s'est inspiré, bien sûr. Et ça, ce n'était pas gagné dès le départ. Encore une fois, je le dis régulièrement, Facebook a fait un travail incroyable pour rester... dans la course, et ils ont vraiment réussi. Et bon, ce petit détail, ce petit bouton en fait partie. Et donc, pour en revenir à l'iPad, il est sorti effectivement en avril. Je pense qu'il n'y a pas d'explications à donner, parce que on en a suffisamment parlé au cours de toutes les émissions. La chose à dire, c'est que il y avait énormément de sceptiques et, comme on disait, moi le premier au moment de l'annonce en elle-même, aujourd'hui, je crois qu'il en reste plus beaucoup. Il y a des gens un petit peu bougons, et peut-être que vous en faites partie, qui disent « Ouais, non, l'iPad, ça sert à rien, c'est pas un vrai ordinateur, on peut rien faire dessus. » Bon, tout le monde a le droit d'avoir sa propre opinion, bien sûr. Mais enfin, franchement, vu l'influence que l'appareil a eue sur l'industrie et le fait que absolument tout le monde a revu ses plans pour les tablettes et tout le monde, en plus, est en train de préparer des tablettes avec une ampleur qu'on n'avait pas vue avant, l'iPad ne peut en aucun cas être jugé comme un échec, c'est évident. Mais non seulement et ça n'est pas un échec pour Apple, mais en plus, ça n'est pas ça a eu une importance essentielle pour l'industrie en général. On peut même le comparer à l'importance qu'a eu l'iPhone au moment où il est sorti, quand il a révolutionné le marché des téléphones, enfin des smartphones plus particulièrement. Il a vraiment recréé, réinventé ce marché des smartphones. L'iPad, là, a créé un marché qui n'existait quasiment pas, je dis bien quasiment, et avec beaucoup, beaucoup de succès. Donc, le bilan après quelques mois est sans doute l'un des plus positifs qu'on ait vu dans cette industrie depuis bien longtemps. Autre événement d'avril, c'était évidemment l'iPhone 4 perdu, et là j'utilise des guillemets, non si bien sûr il a été perdu, mais plus que la perte de cet appareil, c'est toute l'histoire qui s'en est suivie qui a été intéressante à suivre, avec cette guerre entre Gizmodo et Apple, les moyens qu'ils ont mis en œuvre pour récupérer l'appareil, est-ce que c'était vrai ou est-ce que c'était pas vrai, le scandale que ça a fait. Et d'ailleurs, Gizmodo, donc le blog qui a récupéré cet iPhone qui était peut-être volé, peut-être perdu, on sait pas trop, en parle encore, c'est marrant, parce qu'aujourd'hui, chez Gizmodo, pour chaque article que vous voyez, il y a à la fin une vidéo qui va présenter le travail que fait Gizmodo, en basant ce travail sur le bruit qu'a fait l'histoire de la perte de l'iPhone 4. Ils disent en fait, oui, c'est vrai que... Enfin, vous cliquez sur la vidéo, c'est une présentation de Gizmodo, et la présentation est faite de telle sorte que ça commence par... Oui, c'est vrai que l'histoire de l'iPhone 4 a fait beaucoup de bruit, mais on a quand même fait ce... On fait notre travail depuis bien longtemps, et on fait beaucoup d'autres choses, etc., etc. C'est un petit peu pour... attraper les gens qui sont venus avec cette histoire d'iPhone 4 et leur expliquer que le site fait beaucoup plus. Mais c'est marrant qu'encore plusieurs mois après, ça reste un coup presque marketing vraiment, vraiment efficace pour eux. Dernière chose, c'est le début de la... comment dire, de la vraie explosion du combat entre Apple et Adobe. Ça a commencé un petit peu en avril, quand l'iPad est sorti sans flash. Là, évidemment, les choses se sont un petit peu animées, on va dire. Autre chose, bah non, avril, c'est à peu près tout. c'est marrant, d'ailleurs, dans la... dans la chatroom, Lionel G dit « Ah bah oui, mais sur l'iPad, il n'y a pas flash, donc bon, comme quoi ça reste un point assez discutable, on va dire. » Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé en mai ? La guerre continue avec la lettre de Steve Jobs qui s'appelait Thoughts on Flash, donc mes pensées sur Flash, et qui avait fait couler beaucoup d'encre aussi, bien sûr. C'est l'un des articles sur le web qui a fait le plus de bruit de l'année. Hein, si vous voyez les listes des articles les plus partagés, il en fait partie. Et puis... il y a une autre histoire qui a fait énormément de bruit et qui a un petit peu réveillé tout le monde. On en parlait à ce moment-là. C'est le rachat de Palm par Hewlett-Packard, par HP. Parce que Palm avait sorti donc ce fameux Palm Pre sous le système WebOS, ce téléphone que tout le monde trouvait excellent, mais pour différentes raisons, il n'avait pas vraiment bien marché. Eh bien, Palm était en train de couler et tout le monde regardait le bateau Palm couler. Et en fait, HP a finalement décidé de les racheter et ça a été annoncé un jour. Et après le rachat, on sait qu'il y avait d'autres personnes qui y pensaient, mais après le rachat, tout le monde s'est dit « Mais merde, on aurait peut-être dû le faire nous aussi ». C'est-à-dire que l'opération a semblé vraiment, vraiment efficace une fois qu'elle a été annoncée. Et tous les autres se sont réveillés en se disant que Palm avait un potentiel énorme dans le marché des smartphones, mais pas que, puisque maintenant les tablettes étaient en train de devenir un marché important aussi, et que le WebOS, donc propriété de Palm, racheté par HP, pouvait aider dans ce domaine. Le truc, c'est que Microsoft n'était pas vraiment content de ce rachat, puisque HP avait présenté leur tablette qui tournait sous Windows 7, qui s'appelait le Slate, qui tournait sous Windows 7. Et du coup, on s'est tous demandé si le Slate était annulé, puisque maintenant, ils avaient un autre système à faire tourner sur un téléphone ou sur une tablette. Microsoft qui dit « Si, ça sort toujours, pas de problème. » HP qui dit « Oui, bon, peut-être, on verra. » Ça a été un foutoir incroyable. Ce qui peut être sûr, c'est que Steve Ballmer a passé du temps au téléphone avec les gens de Hewlett-Packard, parce que c'était pas forcément une super nouvelle pour eux. On a aussi commencé à entendre parler du fait que Android se vendait plus que l'iPhone. Évidemment, c'est pas très très surprenant non plus. Puisque l'Android, enfin Android est présent sur énormément de téléphones, mais c'est le début du moment où on entend parler de ça. Une histoire à laquelle d'ailleurs on n'a toujours pas de réponse, puisque Apple maintient qu'ils vendent plus de téléphones, Android ils sont partout, donc évidemment on se dit qu'ils en vendent plus aussi et leurs chiffres commencent à être très imposants. Mais bon, c'était le début, ça a commencé là. Intéressant de se dire, quand on pense à l'iPad qui est sorti cette année, de se dire que c'est seulement 3 ans après la sortie de l'iPhone qu'il a commencé à être attrapé par ses concurrents. Donc a priori, l'iPad a vraiment de beaux jours devant lui parce que la situation est un peu en train de se répéter et des tablettes, on n'en voit toujours pas venir concurrencer l'iPad sérieusement. Autre chose, c'est Zynga contre Facebook. Il y a eu une petite période pendant laquelle Zynga et Facebook n'étaient pas super bons copains. Mais évidemment, tout est rentré dans l'ordre un petit peu plus tard et ils sont devenus très amis en partageant leurs revenus. Entre parenthèses, Zynga, pour ceux qui l'auraient oublié, c'est Farmville et les jeux sur Facebook qui vous ont pourri la vie pendant des mois et des mois. Entre parenthèses, encore une petite amélioration de Facebook. Aujourd'hui, toutes ces pollutions n'existent plus sur Facebook et comme quoi ils réagissent vraiment et ils changent le service en fonction des problèmes qu'ils rencontrent. Deux autres nouvelles de la part de Google. On entend vraiment beaucoup parler de Google en ce début d'année 2010. C'est d'une part Wave. Oui, je sais, certains auront soit un petit rire, soit une petite larme. Wave est disponible pour tout le monde. Il était en bêta jusque-là. dans la chatroom, il y en a qui rient et il y en a d'autres qui pleurent. c'est marrant de voir les réactions que provoquent les différents sujets. Donc, Wave arrive en disponibilité pour tout le monde. Et tout le monde exulte, tout le monde se dit qu'ils vont enfin pouvoir tester ce machin bizarre. C'était en mai donc de l'année dernière. On en entend reparler un petit peu plus bas de Wave. Et l'autre chose, c'est le Chrome App Store qui est annoncé, le truc auquel on ne voit toujours pas forcément une utilité. Mais bon, les App Store sont à la mode, ils se sont dit que ça fonctionnerait aussi sur le web, moi je suis pas convaincu, même si bon, on va peut-être parler du Mac Store, du Mac OS Store, enfin un petit peu plus tard, et là je suis sûr que, bon, je n'étant pas Mathieu, qui d'ailleurs est présent dans la chatroom, salut à lui, moi je suis complètement objectif, donc vous verrez que ce que je pense sur le Mac Store sera peut-être intéressant. Mais bon, le Chrome App Store est annoncé, il est sorti effectivement il y a un mois. Je reste tiède. Ensuite, on passe en juin avec la sortie de l'iPhone 4, enfin, qui est bien sûr comment dire, ça a donné lieu à l'énorme histoire de l'Antenna Gate qui est arrivée environ un mois plus tard. Et comme le rappelle Testman57 dans la chatroom, l'iPhone 4 blanc qui n'est jamais sorti, finalement, ils ont eu des problèmes de manufacture, de fabrication. Mais bon, il a été donc annoncé, il est sorti en juin, en juin. Sans doute l'iPhone le plus beau. Au début, je me disais que je préférais le tout premier. Je me demande si celui-là est pas un peu plus beau quand même, hein, avec ces deux machins de verre. Bref. Autre chose, c'est Natal qui a été représenté à l'E3, le Kinect, qui est lui aussi sorti aujourd'hui et qui a fait un carton comme on le sait. Et une autre chose, c'est la vraie montée en puissance de Facebook qui commence à reprendre le dessus. Il n'a jamais perdu le dessus sur Twitter, puisque Twitter a toujours eu une base d'utilisateurs beaucoup plus faible. Mais Facebook redevient véritablement intéressant et on commence à en reparler un petit peu partout. grâce aux changements que Mark Zuckerberg a mis en place aussi, et bien sûr à cause des problèmes de vie privée dont on a énormément parlé dans l'émission, puisque tout à coup, des choses qu'on avait établies comme privées se retrouvent disponibles au vu et au su de tous sans vraiment qu'on nous ait demandé notre avis. Donc ça avait fait couler beaucoup d'encre à l'époque. Mais il n'empêche que c'était sans doute la bonne décision, puisque Facebook reste intéressant et relevant. J'ai encore perdu la traduction française. Je suis absolument terrible. Pertinent. Merci les gars. Je suis désolé. Donc, reste pertinent. Et le devient de plus en plus. On passe au mois de juillet avec un truc qui, là encore, va faire rire beaucoup de gens dans la chatroom, et je pense que ça vous arrachera un ou deux sourires, enfin un sourire plus ou moins large si vous vous en souvenez. C'est que Microsoft a décidé, quelques mois seulement après sa sortie, d'arrêter la production du Kin. Alors, pour ceux qui s'en souviennent, le Kin, c'était ce petit téléphone qui était très orienté réseaux sociaux et qui a duré vraiment quelques mois parce qu'il était au prix d'un smartphone, vendu avec un forfait de smartphone, mais il faisait presque rien. Alors, tout n'est pas à jeter dans le Kin. Ça a fait rire toute l'industrie, hein, c'est certain, mais... Le truc qui était vraiment intéressant dans le Kin, c'était le Kin Studio, qui était ce système qui permettait à tout ce que vous faisiez sur votre téléphone de se retrouver sur Internet en temps réel ou presque. Pensez-y, des trucs comme les photos que vous prenez, elles sont immédiatement disponibles dans le cloud et synchronisées peut-être avec d'autres appareils. Enfin, vous n'avez plus à vous soucier de ce qui est sur votre téléphone ou pas, parce que tout est immédiatement disponible et mis à jour dans le cloud. C'était une idée vraiment excellente, vraiment mise en pratique de manière très efficace, et il y a fort à parier que les autres appareils qui sortiront dans le futur auront ce type de fonctionnalité intégrée. Ça, c'était vraiment quelque chose de très bien vu de la part de Microsoft. Autre coup un petit peu rigolo, on va dire, qui nous a bien fait rire et pleurer en même temps, c'était l'aventure du site France.fr. Alors aujourd'hui, il devrait être en place. Je vais vérifier en direct live. Oui, il fonctionne, France.fr, mais quand il est sorti, il est arrivé avec gros... La chatroom rigole aussi. Il est arrivé avec énormément de bruit, il a été annoncé en grande pompe. Voilà, France.fr, c'est le portail pour tous les gens qui veulent en savoir un petit peu plus sur la France et sur la... Enfin, c'est vraiment le portail de la France dans le monde. Et évidemment, au moment où il a été lancé, il a été complètement submergé et il a coulé immédiatement, et il est resté indisponible pendant plusieurs semaines, ce qui a fait l'énorme, vous connaissez peut-être cette expression de facepalm, c'est-à-dire quand on se met la tête sur la main sur le front, on fait comme ça, voilà, je ne sais pas si vous l'avez entendu, moi ça m'a fait un peu mal. C'était le facepalm de l'année pour la France, à côté d'Adopi. Et il est resté complètement indisponible, tout le monde en riait dans le monde entier, c'était lamentable. Ils ont mis des semaines, vraiment, c'était même pas une histoire qui avait trop de charges, donc ils l'ont refait en quelques jours. Non, ça a mis des semaines, je pense qu'ils avaient mal conçu l'infrastructure derrière et qu'ils ont dû revoir la chose en profondeur, donc évidemment ça a pris beaucoup de temps. Bon, aujourd'hui il fonctionne, il marche, on peut être rassuré, les choses aujourd'hui se sont arrangées, mais c'était quand même bien marrant en juillet. En août, qu'est-ce qui s'est passé? En août, il y a eu les premiers bilans de vente de l'iPad. Bon, c'était pas les premiers tout à fait, mais disons que l'une des choses qui était intéressante, on savait que l'iPad se vendait très bien, mais là où ça devient intéressant, c'est en comparaison avec le Kindle, parce que Amazon a annoncé que son lecteur de livres numériques, donc le Kindle, se vendait toujours très bien, voire même mieux qu'avant. Et là, c'était une surprise pour certains, c'était attendu pour d'autres. Pardon, il y a Giant John Pepper qui me réclame l'Antenna Gate. À vrai dire, je ne sais même plus quand c'était l'Antenna Gate. Je dois l'avoir noté quelque part quand même, là. Peut-être même pas, ça devait être en août. Non, pas du tout. C'était juste après la sortie de l'iPhone, en fait. Je ne l'ai pas noté ici, mais c'était en juillet. J'imagine. Pardon. C'était en juillet ou... Non, en août, pardon. Vous avez raison. C'est tout le temps avec l'iPhone 4, me dit Allman78. C'est pas faux. Encore que moi, ça ne me gêne pas du tout, puisque les réseaux en France sont quand même meilleurs qu'aux États-Unis, donc la perte de puissance n'est pas si importante. Mais oui, c'est vrai. En août, il y a eu effectivement l'Antenna Gate et la conférence d'Apple qui voulait parler de ce gros problème. Bon, ça c'était... Je crois que c'est l'un des trucs qui restent vraiment dans notre mémoire tel qu'il a été. Donc, je ne sais pas si c'est le genre de truc, comme je disais pour Google Buzz, par exemple, c'est surprenant que ça soit sorti il y a si peu de temps, entre guillemets, ou d'autres choses du genre, le bouton Facebook Like. Là, l'Antenna Gate, bon, en même temps, il est intéressant de remarquer que Apple a arrêté de distribuer ces fameux bumpers pour protéger les téléphones et qui étaient censés réduire le problème de perte de réseau. Donc, ils ont arrêté de le distribuer gratuitement et les téléphones se vendent toujours très, très bien et plus personne n'en parle. Comme quoi, hein, sans vouloir faire le troll ou le fanboy, c'était peut-être un petit peu... Le problème existe, c'est certain, mais... Je pense qu'il a été un petit peu sorti de ses proportions. En tout cas, pour moi, j'utilise mon iPhone maintenant sans bumper et je perds pas le réseau, ça marche bien. Donc bon, bref, chacun a son idée sur la question. Mais je parlais du Kindle pour dire qu'il s'est très très bien vendu, contrairement à ce qu'on aurait pu penser avec l'arrivée de l'iPad. Et on peut dire aussi que a priori, les iBooks et peut-être pas les iBooks, mais on se rend un petit peu compte que la lecture de livres ou de livres sans doute n'est pas aussi prédominante qu'on aurait pu le penser sur iPad. Testman57 me dit e-books. Non, moi je parle de iBooks, c'est-à-dire, c'est marrant, tu vois, tu n'as même pas reconnu le terme, c'est le système de livres numériques sur iPad spécifiquement, le système d'Apple qui vend ses livres numériques. Donc... C'est ce système, enfin disons que les livres numériques n'ont pas été extrêmement populaires sur iPad, je suis sûr qu'ils en vendent beaucoup, mais c'est pas devenu le système principal pour lire des livres. Les gens préfèrent, a priori, hein, d'après ce qu'on voit, le Kindle qui est plus simple, qui fait une seule chose mais qui l'a fait... C'est pas qu'il l'a fait bien, mais on n'est pas distrait quand on est sur le Kindle pour lire un livre, on n'a pas d'autre chose à faire. Donc bref, le Kindle fonctionne très bien. Autre chose, c'est Wikileaks, l'affaire, la première grosse affaire de Wikileaks, qui était les documents sur la guerre en Afghanistan, qui ont été livrés par Wikileaks, et c'était le premier gros foutoir qu'ils ont mis, c'était en août, avec des gros problèmes posés dans l'administration américaine et dans l'armée, bien sûr, puisqu'ils ont livré une tonne de documents qui étaient classés top secret, et il y a eu énormément de choses qui en ont découlé. C'était le début du vrai gros scandale Wikileaks en août, qui a été suivi pas très longtemps après par cette histoire de viol ou de sexe non consensuel, ou enfin un terme un petit peu bizarre, de Julian Assange, dont on a parlé plusieurs fois ici. Autre chose, l'histoire de la neutralité du net qui revient sur le devant de la scène et qui aux États-Unis n'est pas terminée, avec des discussions entre Google et Verizon. Et à savoir, les Américains sont aujourd'hui en train de se diriger vers un système où la neutralité du net serait imposée sur les réseaux câblés, mais pas imposée sur les réseaux sans fil, ce qui est une hérésie. Puisque les réseaux sans fil sont le plus gros domaine de croissance des réseaux et les réseaux les plus faciles à mettre en place. Donc, il est évident que c'est, enfin, pour les défenseurs de la neutralité du net, pas la bonne direction. Mais la chose est venue sur le devant de la scène à ce moment-là, en août, avec cette engueulade entre Google et Verizon. Et a priori, elle n'a pas la place, ce problème n'a pas la place qu'il mérite, puisque... tout le monde s'accorde à dire que le public et même les organisations de presse ne comprennent toujours pas vraiment ce qu'est la neutralité du net. J'espère que vous qui nous écoutez, vous savez de quoi il en retourne, même si vous n'êtes pas les plus technophiles de nos auditeurs, que vous avez quand même compris. Si c'est pas le cas, je vous invite à venir nous le dire sur les commentaires du blog, enfin dans les commentaires de l'émission sur le blog plutôt, parce que c'est quelque chose que je n'hésiterai pas à réexpliquer encore une fois. Je sais que ça devient peut-être un petit peu répétitif, mais c'est suffisamment important pour que ceux qui s'en lassent continuent à m'écouter en parler pour les autres qui n'ont pas encore compris. Donc si vous venez le réclamer, j'en reparlerai encore une fois. Je suis sûr qu'on aura l'occasion. De toute façon, le débat n'est pas terminé. L'histoire avec... j'ai oublié son prénom. Monsieur Heard. Mike Heard, je crois, de HP, qui a été renvoyé pour des histoires un petit peu suspectes, qui a manqué commencer une sorte de gros roman entre HP et Mike Heard et la personne qu'il était censé avoir invité entre guillemets à dîner, etc. C'était une grosse histoire. Le truc qui va vous faire rire encore, c'est déjà la fermeture de Google Wave, sachant qu'il est arrivé en version complètement ouverte en mai. Et donc déjà en août, il ferme. Donc mai, juin, juillet, août, 4 mois pour vraiment lui laisser sa chance. On comprend que Rasmussen, qui était donc derrière Wave, se soit dit « bon, il commence à me les casser chez Google et moi je vais aller chez Facebook ». D'ailleurs, il est parti chez Facebook, on en reparle un petit peu plus tard. Mais c'est vrai que Wave n'était clairement pas un projet qui fonctionnait comme Google l'espérait. Mais c'est vrai que aussi en 4 mois, on a du mal à imaginer qu'il se soit trouvé sa place. D'un autre côté, on a souvent entendu de Jeff et des gens de chez Google, Jeff qui nous disait, moi quand je leur parle à mes amis de Google, ils me disent, mais on ne comprend pas cet enthousiasme incroyable qu'il y a autour de Wave, parce que pour nous, c'est un tout petit projet qu'on fait en test comme ça pour voir ce que ça va donner. Donc dans cette optique, peut-être qu'il est plus compréhensible que Google ait fermé la porte au bout de 4 mois seulement, parce que ce n'était pas un truc énorme pour eux non plus. Et comme le dit Uriel Mielin sur la chatroom, ils sont maintenant. Wave est un projet Apache, qui est une autre société. Donc il existe toujours, finalement, il n'a pas été abandonné. Il renaîtra certainement sous d'autres formes à l'avenir. Dernière chose pour le mois d'août, qui était assez fourni, c'était l'arrivée de Facebook Places. Vous allez vous fatiguer de me l'entendre dire, mais c'est encore. Enfin, pour ceux qui ne savent pas, c'est ce système qui permet de dire où on est dans Facebook, d'envoyer les coordonnées qui correspondent ensuite à un lieu, un restaurant, un bar, un monument, quoi que ce soit. Et donc je disais, vous allez être fatigué de me l'entendre dire, mais c'est encore un des trucs qui fait que Facebook réussit à rester relevant, pertinent, voilà, je m'en suis souvenu, à rester pertinent, c'est qu'il voit les choses qui fonctionnent dans le domaine des réseaux sociaux et il l'intègre de manière suffisamment potable pour être utilisable sur Facebook. Donc, ils sont réactifs, là encore. Septembre, évidemment, le gros événement de septembre, c'est... Alors, il y a deux choses. La conférence d'Apple avec l'iPod, enfin, le renouveau de la gamme d'iPod. Et l'autre gros truc, c'était iTunes 10 avec l'arrivée de Ping, le réseau social de la musique. Alors là, je dois faire une sorte de gros, même pas mea culpa, mais de grosse walk of shame, de présentation à tout le monde de ma honte. C'est que, bon, un petit peu comme tout le monde, au moment où ils ont annoncé Ping, moi je me suis dit, ça y est, ils ont tué MySpace. C'est-à-dire que Ping était un réseau social de la musique intégré à iTunes qui allait permettre à tout le monde de suivre ses artistes, de mettre des infos sur ce qu'ils étaient en train d'écouter, de donner des recommandations. Ça allait être le super bonheur de la musique. Et en fait, ça a été tellement mal implémenté qu'il est mort-né, Ping. Bon, peut-être qu'il risque de le ressortir à un moment, mais...
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
Aujourd'hui, Ping n'a vraiment pas tenu ses promesses, c'est rien de le dire. Ça a été vraiment un ratage complet qui, pour le moment, reste au stade de ratage complet. Et MySpace, à côté de ça, comme le font remarquer pas mal de gens dans la chatroom, n'est pas super en forme non plus. Il est un petit peu moribond, mais je pense pas que ça soit Ping qui lui est, qui y soit pour quoi que ce soit. MySpace a réussi à se tuer tout seul. Ils ont très bien réussi pour ça. Ils n'avaient pas besoin de l'aide de Apple. Bon, à côté de ça, les iPods qui ont été présentés sont... c'est le plus gros renouveau de la gamme d'Apple. Enfin, d'iPod, pardon. Sans doute le plus gros renouveau global de l'histoire de la gamme iPod, avec une série bon, qu'on connaît d'appareils qui sont vraiment performants et vraiment bien pensés. Donc ça, c'était plutôt une réussite. Autre chose annoncée en septembre, et là, je vais demander à la chatroom s'ils s'en servent aujourd'hui, si ça leur est aujourd'hui utile ou pas. Donc oui ou non, c'est Instant Search de Google. Ils ont fait une grosse conférence en annonçant les trucs. Est-ce que c'est... Enfin, ils ont fait l'annonce du fait qu'aujourd'hui, quand vous allez chercher, ça va deviner ce que vous voulez chercher et ça va vous afficher les résultats avant même que vous n'ayez fini de taper. Enfin, vous connaissez, hein, si vous allez sur Google, ça va vous afficher tout ça. Et je suis surpris de voir que dans la chatroom, il y a quand même une majorité de oui. Bon, évidemment, le truc est activé par défaut, mais bon, vous l'avez compris, ce que je veux dire, c'est est-ce que ça vous est utile quand vous l'utilisez ? Et bon, c'est vrai que ça fait gagner... un petit peu de temps, comme le dit encore une fois Allman78, c'est pas incroyable le temps que ça fait gagner, mais c'est devenu un petit peu naturel. Et pour moi, c'est pour ça que je dis je suis surpris de voir que les gens répondent oui, c'est que on n'a pas l'impression de s'en servir beaucoup, mais en fait c'est un petit truc qui est devenu naturel. Donc c'est pas une énorme évolution, mais c'est passé dans l'usage courant. Et c'est plutôt une réussite parce que... Ça fonctionne, quoi. Ça fonctionne, c'est utile. Les gens se disaient, bah, à quoi ça sert d'avoir ça? Ça va rien changer. Mais c'est quand même, ça fonctionne. Quand on va sur le site de Google, la question, les questions intéressantes qui se sont posées avec ce système, c'est les questions de la censure. C'est-à-dire que, enfin, censure et gestion des résultats. C'est-à-dire que, s'il va chercher lui-même les termes les plus recherchés pour vous les afficher, si c'est des trucs qui sont pas forcément très politiquement corrects, on va dire ça comme ça pour ne pas aller plus loin, il faut les cacher. Si vous avez des trucs bon pornographiques ou des trucs même pas des questions de porno, mais des trucs qui veulent pas présenter dans les résultats ou des trucs qui n'ont aucun sens ou qui n'ont aucun rapport avec ce que vous cherchez, ça amène forcément intrinsèquement une question de censure d'une certaine manière. Donc ça, ça a posé beaucoup de problèmes à Google. C'était un résultat assez intéressant. En septembre, on commence à entendre parler aussi du Galaxy Tab qui il a été annoncé qu'il s'est très très bien vendu il y a peu de temps. Alors je vais essayer de rechercher les chiffres de vente du Galaxy Tab parce que je crois qu'ils ont été annoncés aujourd'hui. Voyons voir. Tac, tac, tac. Je ne vais pas les retrouver. Enfin bon, bref, il est certain qu'il s'est vraiment très très bien vendu, le Galaxy Tab. On n'a pas fini d'en entendre parler parce que notamment le Galaxy Player a été annoncé. Enfin, je ne sais plus si c'est. Oui, je crois que c'est une annonce, c'est-à-dire que c'est un concurrent de l'iPod. C'est une sorte de téléphone sans. Attendez, qu'est-ce que je raconte ? Je parlais du Galaxy S, en fait, le téléphone qui s'est très bien vendu. Oh, je m'y perds, moi. Bon, bref, la gamme Galaxy, en tout cas, commence avec le... Oui, voilà, c'est bien ça. C'est le Galaxy S, pardon, qui s'est très, très bien vendu. Le Galaxy Tab fonctionne aussi, hein, mais bon. Donc, la gamme Galaxy, avec ce Galaxy Player, qui devrait sortir bientôt pour concurrencer l'iPad, est en train de devenir une sorte de concurrent sérieux à l'hégémonie... Un potentiel concurrent sérieux la politique d'Apple. Et c'est intéressant parce qu'ils font les choses un petit peu comme Apple, avec un petit peu plus d'ouverture, mais avec pas mal de une bonne finition. Donc voilà, c'est quelque chose à surveiller. C'est en septembre aussi qu'on a vu arriver le New Twitter, donc le site un petit peu refait, qui fait que le site de Twitter est utilisable. Et moi, personnellement, j'ai commencé à l'utiliser de plus en plus. J'utilise un petit peu moins de logiciels externes. Je suis sûr que Yann serait extrêmement mécontent de m'entendre dire ça, c'est-à-dire que je suis dans le cloud et un petit peu moins dans les applications tierces. L'autre chose qui est arrivée, enfin dont on a commencé à entendre parler en septembre, c'est Google Me. Et donc le Google Me serait le service de réseaux sociaux de Google qui a été décalé à ce printemps parce qu'a priori il n'était pas suffisamment bon et il était, enfin on pensait qu'il sortirait à la fin de l'année et finalement il n'est pas sorti. Ça serait un service, enfin un changement qui lie un petit peu tous les services de Google d'une manière un petit peu sociale. Et on ne sait pas exactement quelle forme ça prendra, mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne le saura pas avant quelques mois encore parce que ce n'était pas prêt et ça a été décalé au printemps. Et l'autre chose, on en entendait parler chez Apple depuis longtemps, mais là on a commencé à entendre des rumeurs chez Google, c'est un service de musique dans le cloud, un service de musique décentralisé qui vous hébergerait votre musique quelque part sur ses serveurs et qui vous permettrait de d'écouter votre musique où que vous soyez sans avoir la musique stockée sur votre appareil physique. Ça devrait arriver aussi bientôt chez Google et on sait que Apple a priori, enfin on se doute qu'Apple est en train de préparer un truc un petit peu similaire. On conclut septembre avec la montée en puissance de Windows Phone 7 qui là est une vraie réussite critique, c'est-à-dire que tout le monde admire la manière dont Microsoft a géré la refonte de son système d'exploitation pour téléphone portable. C'est en septembre qu'on a commencé à en entendre parler vraiment beaucoup puisque la sortie était en octobre. Octobre justement, c'était le mois de la grosse controverse entre Free, Adopi et les autres FAI. On en a évidemment parlé ici. C'était l'histoire selon laquelle tout le monde devait répondre aux emails d'Adopi. Tout le monde avait dit bon, ok. Tous les FAI avaient dit bon, ok, on le fait. Et au dernier moment, Free dit non, nous on veut pas. Donc évidemment, les autres n'étaient pas super contents. Mais bon, c'était une histoire un petit peu marrante et on va voir qu'on n'a pas fini d'entendre parler de Free. Vous le savez, ils ont refait un petit peu de bruit en décembre. les j'avais mis dans mon line-up, dans mes notes, en août, le Kindle Triumph, et en octobre, c'est l'iPad Triumph, puisque l'iPad est vraiment... Je ne sais pas pourquoi j'ai mis en octobre, mais je pense qu'on a commencé à avoir des vrais retours sur les expériences d'utilisateurs de l'iPad, et tout le monde est d'accord pour dire que c'est une réussite incontestée, hein. J'en ai déjà parlé quand je parlais du début de l'année, mais là, c'est la tendance de voir que tout le monde s'y met et que le marché est ouvert et que l'iPad a pris une, deux, trois, dix, cent longueurs d'avance. On a vraiment commencé à sentir cette réalité à ce moment-là. Peut-être en partie parce que Steve Ballmer prend la parole pour nous annoncer qu'il y aura énormément de tablettes avec Windows 7, pas Windows Phone 7, hein, Windows 7 disponible. Et là, préparez vos lol et vos ha-ha-ha, disponible à Noël. Si mes calculs sont bons, Noël est passé et on n'a pas vu énormément de tablettes sous Windows 7. Donc, une fois de plus, Mr. Ballmer a fait beaucoup de bruit pour finalement pas grand-chose. Une autre chose dont on a entendu parler, c'est cette histoire de Google Car, la voiture qui se conduit toute seule. Et là, c'était plutôt intéressant parce que c'est pas juste un truc qui serait potentiellement possible dans plusieurs années. Google a annoncé qu'ils avaient fait des tests des tests réels dans la vraie vie sur les routes californiennes avec cette voiture sans jamais la conduire et que ça fonctionnait super bien. Ça ouvre des perspectives intéressantes pour l'avenir immédiat puisque ça fonctionne. Voilà, bah ça, j'espère qu'on en entendra parler bientôt, à nouveau. Et enfin, en octobre, il y avait l'autre event Apple, enfin le troisième ou quatrième de l'année, où ils ont annoncé les changements sur le Mac. Changement que d'ailleurs, moi j'attends avec impatience. Enfin, changement. Il y a FaceTime qui arrive sur le Mac, le nouveau MacBook Air qui, de l'avis de tous, est une superbe machine qui coûte quand même très cher pour ce qu'elle est. Et surtout, le nouveau système d'exploitation, donc macOS Lion, qui a plein de choses. Disons que c'est plus une petite bifurcation dans la philosophie avec le macOS Store, donc l'App Store sur Mac, qui à mon sens va avoir, j'en avais déjà parlé, mais va avoir une énorme importance à l'avenir. Il devrait être disponible dans quelques jours seulement, c'est le 6 qu'il sera disponible, le 6 janvier, en avance sur la nouvelle version de l'OS complète. Et à mon sens, ça va être extrêmement important parce que même si, là encore, il y a des gens qui sont un petit peu bougons, qui disent « Ah, mais ça sert à rien d'avoir un store spécifique. On a le web, on a des sites web, on va sur ces sites web qui sont des collections de logiciels à télécharger. On les télécharge, on les installe et puis voilà, c'est la même chose. » Il est évident pour moi que la simplicité d'utilisation d'un store sur lequel on clique sur un bouton et ça s'installe tout seul, ça va faciliter les choses énormément et ça va donner l'occasion à énormément de petits éditeurs d'avoir une visibilité exactement de la même manière que ça existe sur l'iPad et l'iPhone. Et j'irai même plus loin, il me semble assez évident que Windows va avoir un store. D'ailleurs, on avait vu par moment des leaks de Windows 8 qui auraient un store, et il me paraît évident que Windows va avoir un store aussi. Donc, c'est pas uniquement pour le Mac que je dis ça. C'est pas du tout seulement pour Apple. C'est pour cette approche, en fait. C'est une question de philosophie. C'est-à-dire que c'est l'idée de se dire, il faut faire le design de nos logiciels en ayant à l'esprit une personne qui n'est pas informaticienne. C'est là que réside le succès de l'iPhone et de l'iPad, et à mon avis, c'est là que résidera le succès de toute l'informatique à l'avenir, de l'informatique personnelle, de l'informatique d'utilisateur à l'avenir, pour l'ensemble des formats qui existent, que ce soit téléphone, tablette ou ordinateur de bureau. Avec cette philosophie vient l'idée des applications en plein écran qu'Apple veut mettre en place de manière plus, plus large sur ses logiciels et une série d'autres petites nouveautés qui ne valent pas forcément la peine d'être mentionnées. On arrive à l'avant-dernier mois de l'année avec Lars Rasmussen qui rejoint Facebook. C'est donc, comme on le disait, le créateur de Google Maps et de Wave, évidemment, qui en a eu marre et qui s'est barré. Et une série d'annonces qui dénote d'une guerre invraisemblable entre Facebook et Google pour recruter les têtes pensantes de la Silicon Valley. Et là, on se rend compte, encore une fois, que Facebook est devenu un joueur dans le domaine extrêmement imposant qui a une place au même titre que les grands de la Silicon Valley. Et ils se battent à coups de millions et de millions pour engager des gens. Kinect disponible, Kinect mis en vente par Microsoft, et on le sait aujourd'hui qui a eu un succès incroyable, vraiment une énorme réussite pour Microsoft. Et d'ailleurs, à ce propos, moi j'ai eu l'occasion pendant 2 minutes de tester le Kinect et j'ai été assez surpris par sa précision alors qu'elle est censée pas être optimale justement. Donc ce genre de technologie, on l'avait dit à l'époque où ça a été présenté il y a maintenant 1 an et demi et puis on l'a redit quand ça a été représenté à l'E3, quand on en parlait à l'instant, que c'est une technologie vraiment intéressante qui offre des possibilités beaucoup plus larges qu'une simple copie de la Wiimote de Nintendo qui était en fait un domaine un petit peu différent. Là, ça offre des possibilités au-delà de la console de jeu et on l'a vu avec énormément de ce qu'ils appellent des hacks du Kinect pour qu'ils utilisent pour contrôler d'autres choses à partir de leur ordinateur. Et il pourrait y avoir énormément d'applications à ce type de technologie et c'est très intéressant, enfin c'est vraiment une réussite de la part de Microsoft de l'avoir amené sur le devant de la scène de manière aussi efficace. Dernière nouvelle pour novembre, il y a quand même Facebook Messages, donc c'est un système un petit peu de mail qui n'est pas encore arrivé, en tout cas pas chez moi, qui à mon avis, on n'a pas encore vu son importance, mais à mon avis va être encore une composante de l'hégémonie qui est en train de prendre Facebook sur Internet. Entre parenthèses, il est devenu le site le plus visité du net en décembre. Encore plus que Google. Alors, c'est des arguments difficiles à faire parce que Google, c'est un moteur de recherche. On y va, on cherche, on s'en va. Facebook, on passe du temps dessus, on fait différentes choses. Mais quand même, c'est significatif. C'est le site le plus visité du net. Donc, il est cohérent que Facebook se mette à intégrer aussi un système de messages un petit peu plus robuste que ceux qu'ils avaient aujourd'hui. Ils l'ont annoncé en novembre. Et la dernière annonce de novembre, c'était le truc qui sera resté dans nos mémoires pendant des mois, des années à venir, comme l'a deviné notre Aubin, c'est bien sûr l'annonce fracassante qu'a fait Apple avec l'arrivée sur iTunes des Beatles. Vous l'aurez compris, c'était un petit peu ironique puisqu'ils ont fait du buzz pendant peut-être une journée, le monde entier a spéculé sur ce que ça pouvait être cette annonce d'Apple qu'ils avaient mis en plein milieu de leur page principale. Demain sera un jour que vous n'oublierez jamais. Et en fait, c'était les Beatles. Bon, c'est effectivement quelque chose d'intéressant, mais ils en avaient fait un peu beaucoup. Décembre, et là on a évidemment le truc qu'on ne peut pas éviter, c'est WikiLeaks, les câbles des ambassades dont on a beaucoup débattu, qui ont été livrés en pâture au monde entier, pas complètement en pâture, on l'avait dit la dernière fois. Le Chrome Web Store qui est disponible, qui a été rendu disponible donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mois après son annonce. Personnellement, j'utilise Chrome absolument tous les jours. C'est de très loin le meilleur navigateur Internet. Le Web Store, je vous avouerai que je m'en suis servi une fois pour tester. Et voilà. Donc, moi, j'ai des bookmarks, des favoris et je vais vers les sites que je veux. J'ai pas encore vu, ni moi, ni surtout entendu parler sur le net quelque part, sur Twitter, sur Facebook, de gens qui me disent « Oh, essaye cette app, elle est fantastique, tu pourras plus t'en passer. » Alors que bon, sur Android, je vois ça tout le temps, sur iPhone, bien sûr, je vois ça tout le temps, ouais, même sur Windows 7, il y a des gens qui disent « Telle app, elle est géniale, machin. » Sur le Chrome App Store, c'est pas encore ça. Évidemment, on a vu aussi le Chrome OS Netbook, donc le CR48, laptop Chrome, qui, bon, je sais même pas si ça vaut forcément la peine d'en parler parce que c'est vraiment un prototype, on n'en est pas encore à la vraie sortie. L'autre grosse nouvelle de décembre, c'est bien sûr la Freebox Revolution qui a été annoncée en grande pompe dans une conférence presque appelienne par Free. On en a parlé énormément la dernière fois, donc c'est quelque chose qui risque d'avoir pas mal de conséquences sur le paysage des FAI en France, en tout cas. Révolution, je sais pas. Moi, je suis pas encore convaincu que, pour moi, ça ait des conséquences énormément. je fabrique des mots. Des conséquences énormes. D'ailleurs, je l'ai même pas encore commandé. Je vais sûrement le faire. Ça fait aucun doute parce que évidemment, elle a des trucs très intéressants, des capacités très intéressantes. Mais pour moi, comme j'ai pas la télé. Mais bon, il est certain que ça met un coup de pied dans la fourmilière encore une fois et que ça va faire bouger un petit peu les autres. Et je conclus donc cette année avec la mention du fait que Mark Zuckerberg a été nommé personne de l'année par Time Magazine. J'avais fait le commentaire sur... je lis la chatroom, mais il y a plein de gens qui posent des questions en parlant de Free, bien sûr, on parle des FAI et de Numéricable. Oui, vous l'aurez remarqué, il n'y a pas eu le message du sponsor. Le sponsoring de Numéricable s'est terminé au mois de décembre, donc il n'est pas du tout impossible qu'ils reviennent, mais ils sont pour le moment, le sponsoring est terminé, et donc c'est peut-être un autre truc dont je pourrais parler pour 2010, c'est cette confiance que nous a fait Numéricable. On en parle un petit peu dans Upload, mais c'était quelque chose qui est pour moi, bien sûr, personnellement super important, et pour No Watch. Et c'est vraiment, on a trouvé chez Numéricable un partenaire qui nous a laissé, évidemment, quand on parle de Free, de la Freebox, de Adopi, c'était la guerre entre les FAI, tous les FAI et Free, et Numéricable en particulier. Et on en a parlé très librement. Et Numéricable nous en a pas tenu rigueur, et même nous a dit qu'ils étaient heureux de la manière dont ça a été traité. Donc, au-delà même du fait que le fait de faire confiance à un réseau de podcasts qui est un média nouveau et de se dire, voilà, on comprend ce qui font, on comprend ce qu'ils, là où ils vont, et on comprend la manière dont ils fonctionnent. C'est un partenariat qui, moi, m'a vraiment... c'est comme ça que j'espère que tous nos partenariats dans le futur vont se passer. Donc, on verra si c'est le cas, mais en tout cas, je plaisante pas quand je dis que j'ai vraiment une certaine affection pour Numéricable, parce que je trouve que ce sont des gens qui comprennent les choses et qui font les choses bien. Donc, voilà. Et oui, je suis aussi chez Numéricable, Jeffrey et Numéricable. Je mange à tous les râteliers. Je ne suis pas uniquement chez Free, il y en a qui se posaient la question. Mais j'avais passé... oui, Lionel G dit, vous êtes un peu les nouvelles radios libres. Bah oui, exactement. Donc, c'est un petit peu l'esprit comme ça, et les radios libres au tout début, vous vous doutez bien qu'ils n'étaient pas accueillis à bras ouverts par les gens du marketing, quoi. Donc il faut des gens qui aient une vision un petit peu à long terme. Et Holman78 nous dit vendu. Oui, complètement, je suis vendu à Numéricable, et je l'avoue. Non, mais bon, vous comprenez ce que je veux dire, quoi. Alors, donc je concluais sur Zuckerberg et pour dire qu'il a été choisi comme personne de l'année. Pour moi, c'est vraiment une énorme réussite. Zuckerberg, j'ai dû réussite au moins 70 000 fois. Dans ce cas particulier, je pense que c'est particulièrement approprié parce que. Alors là, je vais passer à la conclusion de mon émission bilan en essayant de dire qui sont les gagnants de 2010, qui sont les perdants de 2010 et à la fin, la dernière section qui est qui sont les bofs de 2010. Les gagnants, je commence donc pour enchaîner sur ce que je disais sur Zuckerberg. Pour moi, un des gros gagnants de 2010, c'est évidemment Facebook. Je n'ai eu de cesse de le répéter, donc je ne vais pas vous refaire un couplet complet là-dessus, mais Facebook est un gagnant hyper clair de 2010. Ils ont tout bien fait, ils ont tout bien géré, ils ont été absolument, ils ont maîtrisé leur évolution et ils sont passés d'un statut pas incertain, mais enfin un petit peu moins dynamique en début 2010, à une dynamique monumentale en cette fin d'année. D'ailleurs, il vient d'être annoncé qu'ils ont refait un tour de levée de fonds de 500 millions de dollars, ce qui place leur évaluation, leur valeur évaluée à 50 milliards de dollars. Pour vous donner un petit peu un ordre d'idée, Microsoft vaut entre 200 et 250 milliards et Apple vient de passer la barre des 300 milliards de valeur boursière. En l'occurrence, Facebook, c'est pas la valeur boursière, c'est une valeur théorique parce qu'ils sont ils sont encore tenus par des intérêts privés, mais ils ont une valeur de 50 milliards. Alors la grande question, enfin la valeur théorique est 50 milliards en fonction des investissements. La grande question, c'est est-ce qu'ils les valent? Si Microsoft vaut 220 ou 225 milliards, si Apple vaut 300 milliards, est-ce que Facebook vaut 50 milliards? Moi, je dirais, bon, c'est difficile de nager dans des chiffres comme ça, c'est tellement, tellement abstrait que c'est difficile jauger véritablement. Moi, je dirais 50 milliards, ça ne me paraîtrait pas complètement incohérent parce que c'est vraiment le premier site du monde, du net. Leur capitalisation, merci Maurice, leur capitalisation théorique devrait être énorme et elle l'est. Ils ont des possibilités, un potentiel d'évolution et de monétisation encore plus grand que ce qu'ils font aujourd'hui. Donc bref, Facebook, énorme gagnant. Pour moi, c'est la réussite, l'une des réussites de 2010, sans aucun doute. L'autre réussite, là encore, je vais pas vous le refaire, je vous l'ai fait pendant toute l'émission, c'est l'iPad, hein, c'est une évidence. Ouverture d'un nouveau marché complet et prise de tête par des kilomètres par l'iPad. Donc réussite énorme. Celui qu'on n'attendait pas, c'est Groupon, dont on vous a parlé, qui vient lui aussi de faire, c'est la journée des 500 millions, qui vient de faire une levée de fonds des 500 millions aussi. Donc Groupon, service de coupons de réduction très locaux. En France, ils ont racheté CityDeal et c'est une explosion de croissance comme on en a rarement vu ailleurs. D'ailleurs, ils ont refusé une offre de Google d'être racheté pour, tenez-vous bien, 6 milliards. On en avait parlé là encore la dernière fois. Il paraît hallucinant qu'ils aient refusé 6 milliards, mais bon, ils viennent de lever 500 millions. Donc en même temps, ils ont quelque chose dans le ventre. Dernier gagnant, parce que j'en ai 4 dans la liste, un que vous n'attendrez peut-être pas. ils n'ont pas fait que des trucs parfaits. Mais pour moi, le dernier gagnant de 2010, c'est Microsoft. C'est-à-dire qu'entre le Windows Phone 7, Kinect, Windows 7, bon, qui était en 2009, mais je veux dire, ils ont continué dans cette direction. Microsoft est en train de, si on met de côté l'épisode du Kin, Microsoft est en train non seulement de, au niveau structurel, de réussir tout ce qu'ils font, mais en train de se réorganiser en une société qui laisse de côté le lourd, ce qui marche pas, ce qui est pas efficace, et qui capitalise sur les tendances qui fonctionnent et sur ce qui plaît. Et c'est un changement, enfin, on a presque l'impression qu'il y a un changement de culture chez Microsoft, et le changement de culture va avoir, à mon avis, des conséquences énormes sur la suite des opérations, c'est-à-dire qu'ils vont... Il y a des gens qui se mettaient à penser qu'avec la montée en puissance d'Apple, Microsoft allait presque se faire battre. C'est sûr qu'ils sont... Faut pas exagérer, mais on les voyait un petit peu en position de challenger. Ça visiblement leur a mis un électrochoc et ça a fonctionné. Pour moi, en tout cas, Microsoft a vraiment réussi cette bifurcation sur l'année 2010. Il faut voir s'ils vont transformer l'essai. Mais il est important que Microsoft comprennent ce qui se passe pour rester dans la position de force dans laquelle ils sont. Et à mon avis, c'est ce qui est en train de se passer. Donc pour moi, grand gagnant également de 2010, Microsoft. Les perdants, évidemment Google Buzz, Google Wave, pas besoin d'en faire des tonnes. Le Kin de Microsoft, c'est une plaisanterie sans nom. Et dans le monde de la technologie, il y a une boîte qui était une sorte de start-up miracle il y a quelques années qui s'appelle Dig. Dig.com, certains d'entre vous le connaissent. En gros, c'est un service qui vous permet de soumettre des pages web et des histoires et des liens et de cliquer dessus pour dire que vous les aimez bien et ça les fait remonter. Ça vous présente une sélection des meilleures histoires. Hein. C'est un outil de sélection par la foule, par le crowd sur le net. Et cette société était... certains connaîtront Kevin Rose et Dignation, etc. Ce sont ces gens-là qui sont derrière ce site-là. C'est marrant, Testman57 dit c'est un peu comme le like de Facebook. Et bien exactement, c'est-à-dire que le like, c'est une copie de ce qu'avait commencé Dig il y a de nombreuses années déjà. Et déjà, enfin, le like est une copie du retweet qui lui-même est une copie du Dig. Le Dig, c'est vraiment, vraiment une grosse innovation dans la dynamique Internet. Et donc, ils ont sorti une nouvelle version, la version 4, il y a quelques mois. Et ça a été la version 4 avec des changements, mais quelques changements de fonctionnalités qui, a priori, auraient pu ne pas plaire. Mais ça a été le cassage de gueule le plus impressionnant de ces derniers temps dans ce domaine. C'est-à-dire que Dig a perdu en quelques semaines un énorme pourcentage de leur audience, quoi. C'était incroyable, et c'est un énorme perdant. Je vais pas vous en faire trop parce que Dig est pas hyper populaire en France, ils sont qu'en anglais comme on le dit sur la chatroom, mais c'était vraiment un énorme perdant dans le monde de la technologie, et on sait pas s'ils vont pouvoir s'en relever. C'est un site que moi j'aime bien, qui a historiquement une valeur émotionnelle dans le cœur des geeks, mais bon, c'est pas quelque chose de... Enfin bref, c'est un plantage qui fait un petit peu mal au cœur, quoi. Ça fait moins rire que Buzz ou le Kin parce que c'est une boîte qui ne repose que sur ça et ça risque de se... Il risque de ne pas s'en relever. Enfin, on verra. Hein. Kevin Rose est quelqu'un d'intelligent, peut-être qu'il réussira à inverser la tendance. Notre Robin nous dit qu'il y a la liseuse Fnacbook comme plantage. J'en ai pas entendu parler, moi. Enfin, je sais qu'elle est sortie, évidemment, mais je savais pas si elle s'était vraiment plantée. Moi, il me semblait pas qu'elle allait faire un carton. Mais j'ai pas vu de chiffres sur le sujet. Donc, si tu en as, n'hésite pas à nous les envoyer soit dans la chatroom, soit tu peux m'en envoyer par email. Je serais curieux de savoir comment ça s'est passé. Comme on le dit dans la chatroom, c'est encore très très jeune le Fnacbook pour... disons que s'ils en ont pas vendu un minimum à Noël, ça sent pas bon, mais elle vient de sortir, donc... Et ma dernière catégorie, c'est la catégorie bof. Et là, il va peut-être y avoir des surprises, c'est-à-dire que ils sont pas super gagnants, ils sont pas super losers, mais ils stagnent. Et j'en ai deux. Et dans cette catégorie, le premier, c'est Google. C'est-à-dire que Google, évidemment, c'est un mastodonte. Enfin, c'est l'un des plus gros sites. Enfin, le deuxième plus gros site du net maintenant. Mais l'une des plus grosses sociétés du monde. Évidemment, l'une des plus grosses sociétés dans le monde du tech. Google. Et... C'est pas qu'ils se plantent, c'est pas... Ils sont bofs. Buzz, ils le lancent, ça marche pas. Le Wave, ils essayent, ça fonctionne pas. Ils l'arrêtent. On a Android qui fonctionne, hein, qui fonctionne très bien évidemment, mais qui tient pas toutes ses promesses non plus. La Instant Search, c'est sympa, mais Android se vend évidemment. Je veux pas dire que Android ne marche pas, c'est évidemment faux, mais Android. Et très segmenté, je veux dire, il y a plein de téléphones avec des systèmes différents, il y a des téléphones qui ont des différentes surcouches, c'est pas aussi clean que ça devrait l'être pour un téléphone, mais bon, bref, laissons Android de côté, ça marche très bien. Google TV marche pas super bien sur les tablettes, on espère que le prochain Android fonctionnera bien sur les tablettes, a priori ça devrait être le cas, mais la version d'Android qui existe aujourd'hui sur les téléphones n'est pas adaptée aux tablettes, il y en a qui l'ont quand même mis sur des tablettes. Mano69 me dit c'est l'avantage d'Android, c'est fait comme ça, ça marche très bien, ça ne changera pas. Oui et non, parce que il y a plein de gens qui adaptent Android, quand je dis plein de gens c'est plein de sociétés qui adaptent Android pour leur propre téléphone ou leur propre tablette. Et au final, quand Android, la version officielle, évolue, il faut attendre qu'ils l'aient mis qu'ils mettent à jour leur version adaptée. Enfin, bon, c'est en débat. Uriel Mieline me dit sur la chatroom, Google TV n'est pas encore lancé officiellement vu qu'ils l'ont mis en pause. Attention, c'est pas la même chose. Ils l'ont mis en pause après l'avoir lancé officiellement. Il y avait une télé Sony et un set-top box, enfin un petit boîtier Logitech. Donc il a été lancé et il s'est planté. Donc... Et Manos69, tu comprends ce que je veux dire, effectivement. Tu dis les constructeurs prennent beaucoup de retard, mais à la limite, pour Android sur les téléphones, c'est vrai, mais pour un utilisateur qui a son téléphone, que ce soit Android, Google ou le constructeur qui a adapté l'OS qui prend du retard, ça a très peu d'importance finalement. Si son téléphone n'a pas la mise à jour, c'est un petit peu frustrant quand même. Enfin, bon. Pour le Fnacbook, le lien que m'a envoyé Notre Robin parle de 10 000 appareils vendus. Bon, c'est évidemment pas fantastique, on va dire. C'est pas fantastique. Et il a été mis en vente le 19 novembre, donc. Bon, là, je pense que l'analyse est un petit peu tôt pour faire l'analyse. Et donc, ça, c'était Google pour mon premier bof. Il faut qu'il se bouge un peu. Le truc, c'est que la grande critique qu'on fait à Google aujourd'hui, c'est de se dire ils sont devenus trop lourds pour rester agiles et évoluer comme il le faut dans ce monde dynamique. Qui est celui des nouvelles technologies. Et c'est une critique qui n'est pas sans fondement. Donc, on peut commencer à un tout petit peu regarder Google avec un œil inquiet. Alors, ils sont en train de faire des choses. Il y a cette histoire d'Autonomous Business Units dont on parlait le mois dernier. Et bon, ça risque de changer un petit peu, mais bref, je ne vais pas me perdre dans des explications sans fin. Google, un petit peu bof. L'autre, un petit peu bof, et là je pense que ça va donner une attaque cardiaque à ceux qui me connaissent un petit peu et qui écoutent le Rendez-vous Tech depuis le début, parce qu'on vous en parlait avec un enthousiasme délirant au début, et on en parle toujours beaucoup bien sûr, c'est, voilà, Lionel G l'a deviné, c'est Twitter. Twitter, ils ont un produit qui fonctionne toujours très bien, qui continue à gagner en popularité, mais encore une fois, on ne sait pas très bien où ils vont. Ils font évoluer le truc petit à petit, ils nettoient ce qui doit être nettoyé, ils ajoutent ce qui doit être ajouté, mais on a l'impression qu'il n'y a pas de vision à long terme. Ça avance pas. J'allais dire ça avance un petit peu, mais ça avance pas vraiment. On ne sait pas ce qu'ils veulent en faire. On a envie que Twitter évolue, mais pour le moment, c'est bof. Voilà, c'est ma catégorie bof. Twitter est définitivement dans l'eau. C'est pas un loser. Ils sont pas vraiment dans le camp des gens qu'on pense, pour lesquels on dit ça sent le sapin. Hein, très loin de là. Twitter reste une énorme start-up avec un potentiel monstrueux et des investissements énormes. Donc, on n'est pas inquiet pour Twitter non plus, mais changement dans le management, pas de direction, etc., etc. Je me dis, Twitter cette année, c'était un petit peu bof. On attendra de voir ce qu'ils vont faire en 2011. J'espère que ça ira mieux que cette année. Eh bien, je pense que c'est la fin de l'émission. Un dernier tout petit mot pour ouvrir sur 2011 en disant que Intel vient d'annoncer officiellement ses nouveaux processeurs basés sur l'architecture Sandy Bridge qui fait plein de choses super bien, qui a un processeur graphique top moumoute, qui vous permet de faire sur les versions mobiles de l'affichage sur votre moniteur sans fil pour votre portable, qui est beaucoup plus mieux rapide, etc., etc. Et ça, ça risque d'avoir effectivement ça risque de renouveler un petit peu le parc matériel dans les mois à venir, que ce soit chez Apple ou chez les constructeurs de PC. Sandy Bridge, c'est la direction dans laquelle aller. C'est une vraie évolution comme on n'en avait pas vu depuis longtemps dans le domaine des processeurs. Et ben voilà, donc comme je le disais, on arrive à la fin. J'espère que cette émission faite en solo ne vous aura pas trop endormi. J'aimerais bien entendre ce que vous avez à en dire. Donc, si vous voulez me laisser vos impressions, vous pouvez passer sur iTunes. Vous recherchez le Rendez-vous Tech et vous pouvez laisser un petit commentaire là-dessus. On lit ça, évidemment. Vous pouvez aussi aller sur le blog. Vous y accéderez depuis la page centrale nowatch.fm ou alors me laisser un message par exemple sur Twitter ou Facebook. Sur Twitter, je suis NotePatrick et sur Facebook, je suis NotePatrick. Vous allez sur facebook.com/NotePatrick ou twitter.com/NotePatrick et vous m'y trouverez. Je vais vous donner rendez-vous bien sûr dans 2 semaines avec Jeff pour un épisode un petit peu plus classique dans lequel on aura certainement beaucoup à dire sur le CES, le Consumer Electronic Show et ce qui y a été présenté. Et je vais finir en remerciant grandement la chatroom de m'avoir tenu compagnie dans cette émission en solo. Je vais également vous remercier, auditeurs, de nous avoir suivis pendant toute l'année 2010. J'espère que vous continuerez à nous suivre pendant l'année 2011 et que vous continuerez à apprécier l'émission. En tout cas, sachez que moi, j'apprécie véritablement votre soutien et votre fidélité. Vous savez, les podcasts, que ce soit moi ou les autres podcasteurs de No Watch, ou d'ailleurs évidemment tous les podcasteurs qui font ça. C'est, on le fait parce que c'est quelque chose qui nous plaît, on le fait parce que c'est un moyen de communiquer, de rester connecté avec ce qui est véritablement devenu une communauté. En France, de la même manière qu'il existait une communauté autour de ça aux États-Unis. Et je suis vraiment... Enfin, ça peut paraître un petit peu trivial et idiot, mais je suis vraiment... À chaque fois que je fais une émission, je suis fier et heureux de voir comme les choses ont évolué et de quelle manière les auditeurs, l'audience et la communauté a évolué. Donc voilà, pour terminer 2010 et commencer 2011, je voulais quand même avoir une petite pensée pour nous et pour vous, parce qu'on est tous acteurs de cette communauté. On va arrêter là le sentimentalisme. Je vous fais d'énormes bises quand même et je vous dis à dans 2 semaines. Ciao à tous.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.